Donc, je le dis pour ceux qui écoutent l'enregistrement, du coup, nous sommes dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Alors, tout d'abord, précisons le contexte de ce texte bien connu. Alors, on l'a vu lors des messages précédents, on se situe au début du ministère de Jésus. Celui-ci a choisi les 12, donc les 12 disciples qui vont le choisir et qui vont le suivre. Donc ça, c'était au chapitre 3, verset 13. Ces 12 qui l'accompagneront et que Jésus veut former à sa suite. Et les passages qui précèdent immédiatement le passage qu'on vient de lire décrivent Jésus qui enseigne la foule massée au bord de la mer de Galilée avec différentes paraboles. Cet enseignement, il le fait depuis une barque. C'est dit au début du chapitre 3, je crois. Ça peut surprendre, mais c'est pour des raisons a priori pratiques. Hein. On sait que la voix, elle porte très bien quand on est sur une étendue d'eau comme ça. Et donc, ces enseignements délivrés sous forme de paraboles proposent une série d'images qui illustrent ce qu'est le royaume de Dieu. Et le récit que nous livre Marc laisse à penser que tous ces discours sont donnés au cours d'une même journée. Et c'est cette journée qui arrive maintenant à son terme, au moment où notre récit débute, ce jour-là, le soir venu. Alors, en tant qu'enseignant, moi j'imagine aisément la fatigue de Jésus ce soir-là. Une fatigue due à l'effort physique, que demande le fait de parler en public, et puis en plein air et sans micro, hein. Fatigue intellectuelle, due à l'effort de concentration que ça demande, que demande le fait de formuler clairement son propos. Fatigue nerveuse, liée à la foule, à l'agitation, à la pression. Donc on comprend bien sa volonté de vouloir se mettre à l'écart de la foule. Un peu comme nous, nous sommes heureux de pouvoir regagner notre foyer et nos proches après une journée de travail particulièrement éprouvante. Donc Jésus, on le voit dans le récit, il ne prend même pas la peine de descendre de la barque. Hein. Il y a cette formule un peu étrange, je la relis. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Alors c'est traduit, j'ai regardé dans d'autres traductions, il n'y en a aucune qui me semble très très claire, mais en fait, je pense que simplement que les disciples l'ont rejoint dans la barque, puisqu'ils parlaient depuis la barque, et ensemble, ils prennent le large. Puis donc Jésus s'installe confortablement, il s'endort profondément, et vu le contexte que nous avons décrit, bah ça semble parfaitement logique, compréhensible. Sauf que on va profiter du temps, on va profiter que Jésus se repose quelques instants pour vous parler un peu de cette mer de Galilée, parce que vous n'en êtes peut-être pas aussi familier que lui. Alors la mer de Galilée, voilà, vous l'avez là sur la diapo. Je vous lis la description qu'en fait Wikipédia. Le lac de Tibériade, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent en arabe ou en français, ou mer de Galilée, ça c'est plutôt la version grecque, ou même lac de Kinneret, ça c'est en hébreu, ou encore le lac de Génézareth, du nom d'une ville voisine. C'est un lac d'eau douce d'une superficie de 160 km². C'est donc au nord-est de l'actuel État d'Israël, entre le plateau du Golan et la Galilée. Il a une spécificité, c'est qu'il est situé à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, et il est traversé par le fleuve Jourdain, du nord au sud. Et on nous dit que ce lac, il est riche en poissons, il est réputé pour ses tempêtes violentes à cause des différences de température avec les hauteurs environnantes. On le voit un peu sur cette vue, hein, il y a des montagnes autour, il y a l'océan qui n'est pas très loin, il y a le désert de Syrie, tout ça crée des conditions climatiques qui fait que c'est très propice aux tempêtes. Alors on notera que ces caractéristiques sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on trouve dans les évangiles, la tempête de notre récit, mais aussi le récit de la pêche miraculeuse et le fait que le lac ou la mer, comme on veut l'appeler, soit vraiment un endroit privilégié pour la pêche. Mais on peut lire aussi que ce lac, il fait 21 km de long et 13 km de large. Alors je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça signifie, mais le lac Léman, en largeur, pas dans sa longueur évidemment, mais en largeur, il fait 14 km. Donc c'est quasiment équivalent à la largeur du lac Léman, qui est quand même beaucoup. Hein. C'est vraiment une grosse étendue d'eau. Donc, ça veut dire que là, Jésus et ses disciples sont en train de s'aventurer à la nuit tombante, puisque c'est le soir, pour une traversée de 13 km sur un lac célèbre pour ses tempêtes. Est-ce que c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'une soirée au calme ou d'un repos bien mérité? Je suis pas sûr. On peut se demander ce qu'ils vont faire dans cette galère. Alors oui, pour nous, qui ne connaissons pas la mer de Galilée, on trouvait effectivement logique et compréhensible de partir traverser ce lac et se tenir à l'écart de la foule. Mais Jésus et les disciples, eux, ils sont de la région. Hein. Il y en a plusieurs d'entre eux, même je vous rappelle, c'est des pêcheurs sur ce lac. Donc, ils le connaissent. C'est leur métier. Alors, bien sûr, ils ont l'expérience, hein, ils savent comment le gérer, mais c'est pas tout à fait la même chose que d'aller pêcher près des berges du lac et de le traverser. Et, a priori, on peut supposer qu'ils savaient bien que ce serait pas si facile. Et ça éclaire d'un jour un peu nouveau le démarrage de ce récit. Hein. Certes, Jésus était probablement fatigué, indéniablement, d'ailleurs il dort, hein, mais son invitation, c'est pas du tout un appel au repos. Et on peut du coup se demander quelle est la motivation de Jésus à entreprendre cette traversée dans ces conditions. Est-ce que Jésus voulait intentionnellement mettre ses disciples à l'épreuve? Alors je vous propose une première lecture possible des événements. Donc on a lu le texte, je le résume à ma manière. Jésus, il a enseigné toute la journée, d'une part à la foule, et plus spécifiquement à ses disciples, en privé. Et puis en tant que bon enseignant, il veut les faire progresser, et donc il saisit l'occasion d'une petite mise en pratique. Il invite donc à traverser le lac de nuit, il connaît la situation et les risques encourus, mais il veut qu'ils apprennent à gérer cela eux-mêmes. Donc il se met volontairement en retrait, à l'arrière de la barque, et puis il s'autorise à dormir pour de bon. Il en a bien besoin, et puis il sait qu'il pourra reprendre les commandes s'il le faut. Alors la stratégie fonctionne, hein. La tempête arrive, et les disciples se retrouvent bel et bien seuls à gérer la difficulté, seuls à tel point qu'ils reprochent à Jésus son apparent désintérêt. Malheureusement, le test, puisque une épreuve, un test, n'est pas très concluant, puisqu'ils ne s'en sortent pas, et Jésus est obligé d'y mettre brutalement un terme. Son interpellation aux disciples sonne comme une réprimande, un peu amère. Vous n'avez pas encore de foi? Bon, cette interprétation vous paraît peut-être un peu exagérée, et pourtant je pense qu'elle traduit une vision de Dieu que nous avons très souvent face aux épreuves. N'avons-nous pas trop souvent l'image d'un Dieu prof un peu sadique, qui teste, qui réprimande, qui note, qui attend que nous trébuchions pour pointer nos erreurs, qui provoque des situations pour voir comment on s'en dépatouille? N'est-ce pas ce que nous comprenons quand on parle d'éprouver notre foi? Alors il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais si je reviens à l'épître de Jacques qu'on a lu tout à l'heure, de nouveau ce chapitre 1, et cette fois-ci au verset 13, dit que nul quand il est tenté ne dise « Ma tentation vient de Dieu, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne ». Il y a toujours cette tension, mais du coup, les épreuves, d'où ça vient? Est-ce que c'est voulu par Dieu, ce qui m'arrive? Est-ce que... Comment comprendre ce test? Alors moi, je vous propose une autre lecture. Je reprends le récit. Jésus, il a effectivement enseigné toute la journée. Il est effectivement, sincèrement fatigué. Je m'y range très bien. Il aspire au calme, et cette traversée est un moyen de l'obtenir. D'être à l'écart de la foule, tranquillement, dans sa barque, tout en poursuivant sa mission, puisque, on verra au début du chapitre 5, quand ils arrivent de l'autre côté, Jésus a aussi quelque chose à accomplir là-bas. Donc, ça légitime le fait de traverser le lac. Alors oui, il sait que cette traversée présente un risque, mais dans la confiance totale qu'il a en son père, dans ce lâcher-prise absolu, il sait qu'il n'a rien à craindre. Et donc il s'endort paisiblement. On pourrait dire que ça n'empêche pas de dormir. Il sait aussi que plusieurs de ses disciples ont l'habitude de la mer et qu'ils sauront probablement gérer les aléas éventuels avec foi et courage. Pas de raison de s'inquiéter. Cependant, les événements prouvent que les disciples n'en sont pas tout à fait encore là. Hein. La panique les gagne, et ils en viennent à reprocher à Jésus son indifférence et son inaction, avec cette phrase très forte, hein. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. » Je trouve que cette remarque est très dure, elle est presque insolente. Mais Jésus ne leur en tient pas rigueur. C'est surprenant, Jésus ne leur en tient pas rigueur. Ce qui se passe, c'est qu'il crie à lui, alors il agit. Derrière ces mots maladroits, derrière cette interpellation, les disciples expriment malgré tout le fait qu'ils croient que Jésus peut les sauver. Alors Jésus intervient immédiatement, puissamment, spectaculairement. Et ensuite, Jésus s'étonne de leur peur et du fait qu'il n'ait pas encore suffisamment confiance en lui. Puisque s'ils avaient réellement confiance en lui, ils n'auraient pas eu besoin de l'interpeller de cette manière-là. Alors ils ont manqué de foi, ils ont douté. C'est vrai. Ils se sont crus abandonnés. Mais ils ont crié à lui avec leurs tripes. Et Jésus a répondu, et leur foi s'en est trouvée immédiatement affermie. On dit qu'à la fin, ils sont saisis d'une grande crainte. Et ils ont découvert un peu mieux la grandeur de ce maître qu'ils ont décidé de suivre. Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Alors oui, frères et sœurs, les épreuves arrivent. Mais une première leçon très importante de ce passage, c'est que le Seigneur les traverse avec nous. Et bien que nous le croyons trop souvent indifférent à notre détresse, il agit puissamment dès qu'on le lui demande. Des fois, on ne lui demande pas. Alors, on continue de dormir peut-être. Cette attitude de lâcher prise, confiant, c'est ce que les anabaptistes appellent la gelassenheit. C'est un mot allemand, il n'a pas de véritable équivalent en français, mais on peut le traduire par soumission confiante, abandon paisible, quiétude spirituelle, c'est cette idée-là. On peut le résumer, comme ça vient du verbe lassen en anglais, tout laisser pour suivre Christ, mais c'est aussi faire la volonté du Seigneur, et donc c'est laisser faire toute chose. On joue un peu avec les mots. Mais c'est peut-être la différence entre croire que Dieu peut nous sauver. Croire que Dieu peut nous sauver, c'est l'attitude des disciples, et c'est déjà pas rien. Et c'est la différence entre croire que Dieu peut nous sauver, et puis peut-être savoir intérieurement, être convaincu vraiment dans son cœur, que tout est entre les mains du Père. Et ça, c'est plutôt l'attitude de Jésus. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Croire que Dieu peut nous sauver, oui, je sais, Dieu peut nous sauver, mais être convaincu intérieurement que tout est entre ses mains et qu'en fait, il est déjà en train de nous sauver, il est déjà à l'œuvre, il est déjà actif, malgré ce qu'on peut en penser, malgré ce qu'on peut en percevoir. Tout laisser, tout abandonner notre volonté propre pour que le Christ seul règne sur notre vie. On a cité plusieurs fois ce matin ce verset Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, véritablement c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui règne sur ma vie. La foi n'est plus une croyance, mais c'est un abandon confiant. Non, donc on n'est plus en train d'adhérer à un credo, une liste de points, je crois ça, je crois ça, je crois ça, puis on intellectuellement, est-ce que je crois vraiment ça? Est-ce que je crois que Jésus est vraiment ressuscité? Est-ce que je crois que Jésus il est vraiment né d'une vierge? Est-ce que... Bon, ça a son importance aussi, mais on croit surtout comme un enfant qui s'abandonne à ses parents. L'enfant, il ne se demande pas, mais est-ce que mes parents ne sont pas en train de m'emmener pour je ne sais quel projet sournois? Est-ce que mes parents s'occupent vraiment de moi? Dans une relation saine de parents à enfants, l'enfant s'abandonne complètement à ses parents, il a toute confiance en eux, et on sait, hein, c'est dit plusieurs fois, Jésus nous invite à accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Alors ce texte est riche d'enseignements pour notre vie individuelle, pour notre foi. On voit aussi que donc Jésus, jusqu'ici, a révélé plusieurs aspects de sa puissance ici. Il révèle aussi qu'il est le maître des éléments, jusqu'à pouvoir faire taire le vent et les flots. Mais je crois que ce texte, il revêt aussi quelques enseignements utiles pour la vie de l'Église. Puisque, en tant qu'Église, ça ne vous aura pas échappé, on peut traverser aussi des épreuves ou des tempêtes. Hein. Et ce qui m'invite à faire un focus plus particulier sur l'Église, c'est que là, on est vraiment dans un contexte où, après une journée passée avec les foules, Jésus, là, il est vraiment dans l'intimité avec ses disciples. Il nous dit, Jésus part avec ses disciples à l'écart. Alors, au verset 34, juste avant notre passage, c'est précisé, Marc précise explicitement, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il a expliqué tout à ses disciples. On a déjà vu des apartés comme ça au début du chapitre 4, verset 10. On lit que Jésus, il leur explique, par exemple, la parabole de la semence. Il est dit à l'écart, oui, il prend le temps de leur expliquer à l'écart la signification de la parabole. Il y a toujours cet enseignement un peu particulier qui s'adresse spécifiquement à ses disciples. Mais ici, il n'est plus seulement question de se tenir à l'écart, il s'agit carrément de quitter la foule. Donc il y a vraiment quelque chose de très spécifique, je pense. Enfin, cette précision moi, m'invite vraiment à penser ce passage comme un enseignement spécifique destiné à l'Église. Et à la différence d'enseignements plus globaux que Jésus peut donner à la foule. Donc cette épreuve comme un enseignement. Hein. Donc il s'adresse à nous, nous qui avons choisi d'embarquer ensemble, d'embarquer, le terme est choisi à dessein, d'embarquer ensemble avec Christ. La barque, les disciples, c'est nous aujourd'hui, petite communauté du Creusot, ou bien vous qui écoutez d'ailleurs ce message, via l'enregistrement, dans votre communauté locale, c'est notre petite communauté. Et une barque, c'est pas un paquebot ou un porte-container, hein. Une barque, c'est fragile. Une barque, on est serré les uns contre les autres. Voilà, tous ces aspects sont, je pense, ce sont des images qui sont parlantes pour penser ça en tant que communauté locale. Alors, on peut, en effet, nous pouvons considérer que on a été assis comme les disciples tout le jour à écouter, à essayer de comprendre les enseignements de Jésus. Quand je dis tout le jour, comprendre peut-être une durée plus large que juste dimanche, hein, mais on a été un certain temps à écouter, à essayer de comprendre les enseignements de Jésus avec beaucoup d'autres chrétiens. Et puis cette semence a été semée en nous, comme dans d'autres terres. Et si aujourd'hui nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur, c'est probablement que cette graine a pris racine dans une bonne terre et qu'elle commence à pousser. Réjouissons-nous. Et le soir, ce soir, après avoir tant appris, Jésus, depuis ce même lieu, cette même barque, ces mêmes murs, ici même, où il enseigne habituellement, il nous invite à le rejoindre pour traverser la mer. Passons sur l'autre rive. Alors, comme les disciples du récit, peut-être que notre attitude, si Jésus nous invite comme cela, c'est de se dire, chouette, on va encore avoir un petit moment d'intimité avec lui, où il va nous expliquer des choses seul à seul, on va mieux comprendre, on va grandir. Avec lui, on s'attend à revivre ces mêmes moments qu'on a vécu ces derniers mois. Avec voilà, cette proximité avec lui et puis le confort du bâtiment dans lequel on se trouve. Mais j'ose une question. Et si, dans cette invitation, nous n'avions pas bien compris que traverser la mer, ça signifie peut-être autre chose que rester dans le confort de nos cultes du dimanche? Que cela comporte une part de risque, un risque assumé, connu, mais un risque quand même, et qu'il est normal qu'il y ait des tempêtes. Alors des tempêtes, me direz-vous, cela veut dire des épreuves? Ben je crois que oui, évidemment. Mais je crois aussi qu'on peut être un peu plus précis, parce que les images bibliques sont très riches. Oui, je vais vous livrer un scoop, mais un désert, c'est pas une tempête. Et les deux existent pour parler des épreuves dans la Bible, c'est probablement pas les seuls termes d'ailleurs. Mais je me suis demandé un moment, mais ici, il est question de passer à travers les épreuves, on nous parle d'une tempête. Pourtant, spontanément, les épreuves, je s'assimile assez volontiers à des épreuves de désert. C'est quoi la différence entre les deux? Dans les deux cas, c'est des épreuves de foi. mais je pense qu'on peut noter des différences importantes. Déjà, les déserts auxquels on peut penser dans la Bible, c'est des épreuves sur le temps long. 40 ans pour les Hébreux, 40 jours pour Jésus. Alors que la tempête, c'est évidemment un événement qui est brutal, soudain. Ça, c'est déjà une différence importante. Et puis, le désert, c'est synonyme de solitude, d'absence, de dénuement, de renoncement peut-être aussi. Alors que la tempête, ça va être l'agitation, la tourmente, le bruit, les vagues. Et puis, du coup, ce temps-là, ce temps de désert, lui, ça va être un temps qui va nous inviter donc au dépouillement, à l'humilité. Ça va être un temps de purification, alors que la tempête va être plutôt un temps qui va nous appeler à crier à Dieu. On va avoir besoin de sa puissance pour en sortir, comme dans ce récit. Et donc, le désert, ça s'accompagne, on pourrait dire, d'une période de croissance spirituelle. On se nourrit de ce que le Seigneur nous donne sur le temps long, et on en sort grandi spirituellement, et donc c'est un temps plutôt de préparation. Les Hébreux se sont préparés à rentrer en terre promise à travers ces 40 ans dans le désert, et on sait quel travail Dieu a mené à travers ce peuple pour qu'il soit prêt. D'ailleurs, ils n'étaient pas prêts la première fois, c'est pour ça qu'il a fallu ces 40 ans. Et puis Jésus, il a commencé son ministère par 40 jours dans le désert. Pareil, ça a été un temps de préparation. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et la tempête, ça va plutôt être ça va plutôt s'accompagner d'une transformation. On peut voir la symbolique de l'eau et des flots dans la Bible, hein, on la retrouve à différents épisodes. On voit, par exemple, les eaux du déluge, hein, l'humanité pécheresse qui passe à travers les eaux du déluge. Il s'agit d'une transformation, là aussi. Les Hébreux qui étaient esclaves traversent la mer Rouge pour être libérés, puis traverseront le Jourdain, à nouveau de l'eau. Jonas, qui s'enfuit au loin, est rappelé à l'ordre au cœur de la tempête par Dieu. Et puis, plus près de nous, on peut probablement mentionner les eaux du baptême, hein, du baptême, qui sont le signe de notre repentance, de notre changement de vie, de notre transformation à la suite de Christ. Voilà, alors peut-être que c'est pas toujours pertinent de se demander, voilà, ce que je vis là, est-ce que c'est un désert, une tempête, surtout que la notion de temps long, court, c'est très très relatif, hein, une épreuve c'est toujours trop long de toute façon, mais je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a ces nuances-là, et que peut-être... ça peut nous aider aussi à comprendre ce que le Seigneur attend de nous dans les passages difficiles que nous traversons. Est-ce que je vis un temps de désert? Un temps qui vise à me préparer, à me dépouiller, à me purifier, à me sanctifier? Est-ce que je vis un temps de tempête qui vise à faire grandir ma foi, qui vise à me montrer aussi toute la puissance et la grandeur de Dieu, à travers peut-être une action miraculeuse, peut-être quelque chose qui nous laissera comme les disciples, qui donc est-il que, laisse-moi compléter la phrase dans les situations qui vous occupent. Alors, concrètement, c'est quoi les tempêtes qui guettent l'Église? Alors, on pourrait faire une longue liste, on pourrait chercher tout ce qui peut secouer notre barque. Mais si on se demande quel type de tempêtes sont à craindre, là, la réponse est facile. Quel type de tempêtes sont à craindre? Aucune, justement. On ne doit craindre aucune tempête. Christ est à notre bord, et même le vent et la mer lui obéissent, je vous rappelle. Donc, on ne doit craindre aucune tempête. Mais sans pour autant de la craindre, on peut se demander ce qui peut déstabiliser l'Église, notre barque, jusqu'à nous faire paniquer. Et je vous invite à regarder par quel procédé très complexe les choses se résolvent dans le récit de Marc. Au verset 39, Jésus menaça et dit à la mère, « Silence, tais-toi. » Alors, puisqu'on est dans une lecture suivie de Marc, à quel passage cela vous ferait-il penser plutôt dans le récit de Marc, ce type d'intervention? On en a rencontré quasiment dans les mêmes mots. Mais ça fait déjà un petit moment, parce que c'était au chapitre 1. Jésus, face à une personne possédée par un démon, commande sévèrement au démon, donc c'est Marc, chapitre 1, verset 25, « Tais-toi et sors de cet homme. » Il impose le silence, il menace. Je trouve que les deux sont assez similaires. Et l'agitation de la mère dans notre récit pourrait suggérer une attaque de l'adversaire, une attaque démoniaque, appelez-la comme vous voulez, mais soyons donc vigilants aux esprits qui viendraient secouer notre barque au point qu'elle se remplisse parfois. Et quand elle commence à se remplir, nous paniquons. Mais ne doutons pas trop vite, alors que nous sommes ballottés par les flots et que tout semble perdu. D'une part, les tempêtes, c'est normal. Le lac de Galilée, il a toutes les raisons de subir des tempêtes. Eh bien, dans l'appel que Jésus nous lance, c'est normal de subir des tempêtes. Mais ne doutons pas trop vite que tout semble perdu. Ne doutons pas trop vite de la présence et de la puissance de Dieu. Le sommeil de Jésus à l'arrière de la barque, c'est pas le signe de son indifférence à notre égard. C'est plutôt l'exemple de l'abandon total au Père, l'exemple que nous sommes appelés à suivre. D'ailleurs, on peut noter un détail intéressant. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'emplacement où Jésus se trouve. On dit « à l'arrière, sur le coussin ». Le coussin. Pourquoi le coussin ? Ben, je pense que cette précision, ça désigne, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé dans la documentation, ça désigne la place du timonier, c'est-à-dire celui qui tient la barre. Ça veut dire que Jésus, il est en fait à la place de celui qui tient la barre, le gouvernail de la barque. Alors on peut se demander comment il fait puisqu'il dort, mais ça me semble quand même appuyer le fait que Jésus, c'est bien lui qui est au contrôle, malgré les apparences. Alors tâchons, frères et sœurs, de rester dans cette gelassonight, dans cet abandon, dans ce laisser-faire de Jésus, dans nos vies par Jésus, en nous encourageant les uns les autres à tout remettre à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et avant de terminer, je voudrais attirer votre attention sur un détail aussi, un autre détail, à la fin du verset 36. La formule est un peu bizarre. Hein. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, on en a parlé, et il y avait d'autres barques avec lui. Alors si la barque des disciples, c'est l'église, c'est notre église, notre communauté, cette mention suggère peut-être que suivre l'injonction de Jésus ne met pas en mouvement seulement la barque des disciples, notre barque, un seul groupe, mais d'autres barques, d'autres personnes autour de nous. L'histoire ne dit pas ce que deviennent ces autres barques dans la tempête, mais il y a peu de doute sur le fait qu'elles ont été largement bénéficiaires du cri des disciples à Jésus, du calme qui s'est fait. Donc cela nous rappelle que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis du monde et de la communauté plus large dans laquelle notre Église ici au Creusot s'insère. Alors, frères et sœurs, sommes-nous prêts, en tant qu'Église, à monter dans la barque de Jésus? Peut-être que comme Jacques et Jean, au chapitre 10, verset 35, on va dire avec naïveté, « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » On est plein de naïveté, on a envie de monter dans cette barque. Vous savez ce que Jésus leur répond après, hein. Vous ne savez pas ce que vous demandez, vous ne savez pas ce que ça implique, mais peut-être avons-nous cette attitude. Sommes-nous prêts aussi en tant qu'Église à suivre du coup cette injonction du Christ à passer sur l'autre rive malgré les dangers? Alors là aussi, peut-être que comme Pierre, on peut dire avec orgueil, c'est aussi quelque chose qui a été cité tout à l'heure, mais si tout se tombe, eh bien, pas moi. Donc, chapitre 14, verset 29. Mais ça, c'est... Encore une fois, Pierre ne savait pas ce qu'il disait à ce moment-là. Sommes-nous prêts, en tant qu'Église, donc, à subir les tempêtes qui ne manqueront pas de se présenter, comme sur la mer de Galilée? Et alors, de quelle manière aborderons-nous, ou abordons-nous, on peut parler peut-être au présent aussi, de quelle manière abordons-nous ces tempêtes? Avec naïveté, avec orgueil, avec peur et colère contre Dieu? Bonsoir, mes seigneurs, enfin, on avait trouvé un fonctionnement qui convenait, enfin, ça marchait bien. Et voilà, de nouveau, il faut que ceci, cela nous embête, nous pose question, nous fasse douter, nous sème la division parmi nous. Eh bien, évitons ces écueils. Avançons rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Ça, c'est Matthieu qui a cette formule dans chapitre 10, verset 16. Et sachons voir que Jésus est toujours là, présent à nos côtés. Et que même s'il laisse la tempête nous secouer pour un peu de temps, sa puissance et son autorité sont pleinement actives. Par lui, à qui même le vent et la mer obéissent, nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons donc tout lui abandonner et sortir victorieux de ce que nous appellerons peut-être un test.